commencé la dernière fois l'histoire de la famille Durand. Nous avions vu essentiellement l'histoire de Pierre, un des plus jeunes et talentueux pasteurs du désert, qui donc avait fini pendu, comme nous l'avons vu la dernière fois. On va reprendre un petit peu la chronologie, si vous voulez, l'essentiel de la chronologie de cette famille pour nous resituer un petit peu dans l'ensemble, puisque donc Marie va être arrêtée quelques années après le mariage de Pierre, qui a lieu donc le 10 mai 1727 au désert, et le 24 août 1728, le couple a une petite fille. C'est en le 18 septembre 1828 qu'a lieu une première tentative d'arrestation de Pierre Durand à laquelle il échappe. Mais comme conséquence de cette arrestation manquée, l'année suivante, en 1729, on arrête le vieux père, Étienne Durand, qui a déjà été arrêté à plusieurs reprises et qui va être arrêté définitivement. Son crime, il est tout simplement le père de Pierre. C'est ça son crime, n'est-ce pas? Il sert d'otage, en quelque sorte, et on annonce que Étienne sera libéré si Pierre accepte de quitter le royaume et d'arrêter ses activités pastorales. Pierre, bien entendu, n'accepte pas ce chantage, mais par contre, il envoie une lettre aux autorités protestant de l'innocence de son père et demandant donc que son père soit relâché. En fait, cette lettre n'a aucun effet et Étienne Durand, le père, donc, va être enfermé pendant 14 ans. Il sortira en 1743 à l'âge de 90 ans. C'est pas... Ça montre la cruauté, n'est-ce pas, de cette situation-là. Marie, donc, reste seule dans la maison familiale au Boucher. Sa belle-sœur, la femme de Pierre, ayant fui au désert. Le 25 août 1729, cette dernière a une deuxième fille qui est prénommée Anne. Et c'est le 31 mai 1730 que Marie se marie, si j'ose dire, avec cet homme qui est âgé, qui a plus de 40 ans qu'elle, qui se nomme Olivier Sèvres. Mariage en quelque sorte arrangé, nous l'avons vu la dernière fois, par Étienne, déjà avant son emprisonnement, mais que Pierre, lui, verra d'un très mauvais œil à cause de la différence d'âge. Il avait quelques raisons en cela d'ailleurs. Et c'est donc en 1730 que Marie est à son tour arrêtée. Malgré le fait, n'est-ce pas, qu'elle était mariée, Olivier Sèvres ne peut rien faire pour elle, bien sûr, et elle est donc arrêtée pour simplement avoir été la sœur de Pierre Durand. Le 11 juillet de la même année, la première fille du couple de Pierre Durand, la petite Jeanne, meurt, n'est-ce pas? Et Marie est donc enfermée dans la fameuse tour de Constance, qui est une tour de 33 mètres de hauteur, de 22 mètres de diamètre, avec des murs épais de 6 mètres et des ouvertures qui ne se ferment pas. Ça veut dire que l'hiver, les courants d'air, n'est-ce pas, entrent sans qu'on puisse rien faire pour les en empêcher. Et l'été, n'est-ce pas, il fait à l'intérieur de cette tour une chaleur torride. Disons aussi, n'est-ce pas, que la tour est située en pleine Camargue, dans des marais qui, à l'époque, sont pestilentiels et porteurs de toutes sortes de germes de maladies. Une humidité moite, n'est-ce pas, est en permanence, hiver comme été, à l'intérieur de cette tour. Bon, alors il y a deux salles dans la tour. Une salle du bas qui est réservée aux prisonniers de droit commun, et puis la salle du haut qui est réservée aux religionnaires, c'est-à-dire essentiellement aux femmes. Quand Marie y est enfermée en 1730, il y a 25 femmes qui, elle rejoint, enfin elle est la 25e, qui arrive dans cette sinistre prison. Le martyre de ces femmes va devenir légendaire, n'est-ce pas? Et va durer donc de très très nombreuses années, 38 ans en ce qui concerne Marie. Dans les premières années, on tente de racheter les prisonnières. Et notamment, son fiancé s'y emploie. Enfin, son fiancé, son mari plus exactement, n'est-ce pas? En fin de compte, il finira par être lui aussi arrêté et il rejoint Étienne, le père de Marie, dans sa prison. D'ailleurs, ils sont à peu près du même âge pratiquement, n'est-ce pas, le père et le gendre. Et ils vont se soutenir, s'aider mutuellement, n'est-ce pas. Et la présence d'Olivier sera pour Étienne Durand un grand réconfort pendant son incarcération. Quant à Anne Durand, la femme de Pierre, après la naissance de sa deuxième fille, qui est prénommée Anne, elle aussi, n'est-ce pas, elle se réfugie à Lausanne. Elle sort du royaume et se réfugie à Lausanne, ce qu'elle a de mieux à faire, effectivement. Le 18 mai 1731, sa mère, la mère d'Anne, donc Isabeau Sauter, est arrêtée. Elle est arrêtée et elle rejoint Marie à la tour de Constance. Alors on a ce paradoxe tout à fait étonnant, n'est-ce pas? Le père et le gendre, le beau-père et le gendre sont enfermés ensemble et la belle-mère de Pierre, n'est-ce pas, est enfermée avec sa sœur. Bon, il y a d'étranges regroupements, d'étranges rencontres dans ce malheur. Néanmoins, Isabeau n'a pas la même consécration ni le même zèle que Marie, et notamment elle va avoir des mauvais sentiments pendant très longtemps à l'encontre de Marie, qu'elle estime être la cause de tous ses malheurs, et cela va empoisonner quelque peu l'atmosphère difficile, évidemment, dans la tour de Constance. C'est l'époque où les siens étant enfermés, sa femme étant en Suisse, Pierre Durand, évidemment, se sent très seul, d'autant que sur le plan matériel, il est dans un grand dénuement parce que sa famille forcément l'aidait. Dans la mesure où plus personne de sa famille n'est en liberté, il va se trouver dans une situation extrêmement difficile. À cela s'ajoutent alors les problèmes proprement pastoraux. Le protestantisme français à cette période-là connaît un drame, un schisme tout simplement, dû au pasteur Berger, lequel pasteur Berger est tombé dans l'adultère. Et Antoine Cour a donc demandé à ce qu'il soit exclu. Mais malheureusement, comme ça arrive, hélas, parfois, lors de semblables circonstances, un certain nombre de pasteurs du désert suivent Berger dans son égarement et il s'en suivra un schisme du protestantisme français qui aurait pu évidemment forcément éviter ce luxe-là dans une période aussi difficile. Ce schisme va durer jusqu'en 1744. Pierre Durand, lui, est au cœur de ce combat. Bien entendu, il a pris parti contre l'immoralité du pasteur Berger, mais ça vient s'ajouter évidemment au fardeau qu'il porte. En 1731, lui naît un fils, Jean, l'année même où sa tête, comme on le sait, est mise à prix. Et c'est le 12 février, comme nous l'avons vu, 1732, qu'il est arrêté, cette fois-ci définitivement, pour être pendu quelque temps plus tard. Nous avons vu la mort héroïque de Pierre durant la dernière fois, qui chante des psaumes à la potence. Marie apprend l'exécution de son frère pendant qu'elle est enfermée, et bien loin de l'abattre, le martyr de son frère l'ancre d'autant plus dans sa résolution de tenir ferme et, comme cela sera écrit sur la margelle de la tour, de résister. Quelle est la situation des prisonnières dans la tour de Constance? Eh bien, elles ne sont pas totalement coupées du monde extérieur. Elles peuvent recevoir quelques secours sous forme de colis, oui, de correspondance. Elles peuvent recevoir quelques visites, coudre, s'occuper, écrire, lire, n'est-ce pas? Et très vite, n'est-ce pas, bien qu'il y ait 25 femmes, 25 religionnaires, comme on les appelle, qui sont enfermées à la tour de Constance, Marie va prendre le leadership spirituel de ces femmes. C'est elle qui est, bien qu'encore très jeune à cette période-là, la plus représentative, la plus déterminée, celle qui a l'ascendant spirituel le plus important, et puis aussi celle qui, disons-le, a le plus aussi d'instruction, n'est-ce pas? C'est aussi l'époque où le protestantisme est aux prises avec le problème du prophétisme. Et les prisonnières dans la tour de Constance sont elles aussi aux prises avec ce problème du prophétisme. Et il y a des discordes qui naissent dans les premières années la tour de Constance entre les prisonnières au sujet du prophétisme, comme il y en a dans la tour de Constance. On ignore, n'est-ce pas, quelle a été l'opinion profonde de Marie sur en ce qui concerne les prophètes, le prophétisme, mais il y aura au sein des prisonnières elles-mêmes des phénomènes de prophétisme, et notamment un certain nombre de prisonnières prophétiseront en hébreu. C'est tout à fait intéressant de le noter. En tout cas, si de semblables phénomènes avaient lieu dans la tour de Constance, il est vraisemblable que Marie n'était pas fondamentalement hostile au courant prophétique, et il semble même, par certaines de ses lettres, qu'elle était assez proche de ce qu'on en appelait à cette époque-là les petits prophètes. En tout cas, chaque soir, elle organise un moment de prière, de lecture de la Bible, de chant des psaumes, etc. Et elle encourage ses camarades de détention à résister aux tentatives nombreuses de conversion. Car parmi les visites que ont les prisonnières, bien sûr, il n'y a pas que des amis, il y a aussi des prêtres qui viennent les endoctriner et tenter de faire fléchir leur détermination en échange évidemment d'une promesse de remise en liberté immédiate si elles acceptent de se convertir. C'est alors que, est gravé dans la pierre, n'est-ce pas, de la margelle qui est au milieu de la tour, de la salle des prisonnières, le fameux résister, n'est-ce pas, qu'on peut voir encore. Marie en est-elle la réalisatrice? On l'a mis en doute, on l'a aussi affirmé, c'est difficile de savoir. Je pense que... La plus grande vraisemblance, c'est qu'un certain nombre de prisonnières se sont relayées pour graver cette inscription. On voit mal une seule personne le réalisant. En tout cas, si ce n'est pas Marie directement qui est l'auteur de ce résister, il est certain qu'elle fut l'âme de la résistance, elle fut l'incarnation de la résistance des prisonnières de la tour de Constance. En 1732, les deux enfants de Pierre Durand sont ramenés en Suisse et par conséquent sont mis à l'abri des poursuites qui pourraient suivre l'exécution de leur père. Et là, bien entendu, les prisonnières vivent dans l'espérance d'une prompte libération, d'autant que en 1736, sur l'instigation du pasteur Paul Rouvier, 11 galériens sont libérés. Et cette nouvelle parvient aux prisonnières qui pensent que leur délivrance est proche, ce en quoi, évidemment, elles s'abusent. Elles sont d'autant plus dans cette illusion que le 9 avril de la même année, le roi finit par reconnaître que l'on puisse mourir dans ses états en n'étant pas catholique. C'est tout, ça s'arrête là, ça va pas plus loin. Finalement, dans le martyre des prisonnières de la tour de Constance, il y a forcément le fanatisme en particulier de l'intendant Florentin, qui est le ministre, n'est-ce pas, qui dirige la persécution depuis Versailles, ministre extrêmement fanatique. Il y a l'indifférence de l'opinion publique en général, voire aussi de l'opinion publique protestante à l'endroit des prisonnières. Il y a l'oubli, il y a un certain nombre de circonstances qui, s'ajoutant les unes aux autres, font que la persécution va durer. Les prisonnières ne se plaignent pas, en tout cas en ce qui concerne Marie, n'est-ce pas ? Et Marie enseigne à ses compagnes de considérer cette persécution comme un châtiment de Dieu, n'est-ce pas ? Un châtiment de Dieu qui doit les emmener à la repentance. En fin de compte, n'est-ce pas ? En 1736, on est encore loin de la libération, puisqu'il faudra attendre 1768 pour que la dernière prisonnière, Anne Reyes, soit enfin libérée de la sinistre tour de Constance. En tout cas, lorsque cet espoir est déçu en 1736, n'est-ce pas, les prisonnières réalisent qu'elles sont oubliées des leurs. Ça aussi, c'est quelque chose qui va les faire souffrir terriblement. Peut-être ce sera la chose la plus difficile à supporter. Que leurs ennemis s'acharnent contre elles, que Florentin fasse tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher leur libération, ça, elles peuvent le comprendre. Mais que leurs propres frères et sœurs, n'est-ce pas, n'aient pas plus de soucis pour elles et ne se mettent pas plus en mouvement pour essayer de les faire libérer, ça c'est quelque chose qui les attriste. C'est le fardeau le plus difficile à supporter. Le 14 septembre 1743, Étienne Durand est libéré. Nous l'avons vu tout à l'heure, il est âgé de 90 ans et il revient donc dans sa maison. Hélas, il est seul, n'est-ce pas? Il revient pour y mourir, bien sûr. C'est cette même année, plutôt l'année suivante, 1744, qu'Antoine Court met fin au schisme du pasteur Berger, n'est-ce pas, et que les choses aussi rentrent dans l'ordre à ce niveau-là. C'est l'époque où les événements politiques sont en train de changer, d'abord parce qu'un nouvel intendant arrive en Languedoc, et puis qu'il y a une alliance entre Frédéric II et Louis XV. Et à la faveur de cette alliance, on espère que Louis XV, n'est-ce pas, en tout cas c'est l'espoir des... que Frédéric II, je veux dire, c'est l'espoir des prisonnières, elles espèrent que Frédéric II, prince protestant, va faire pression sur Louis XV pour faire cesser les persécutions, en tout cas les adoucir, et en tout cas, à la faveur, n'est-ce pas, de cette alliance, elles espèrent à nouveau leur libération. À cette époque-là, il n'y a plus que 20 prisonnières dans la tour de Constance, certaines sont mortes, d'autres ont abjuré, peu nombreuses, mais certaines quand même, et ont donc ainsi été libérées. Tous les jours, elles ont le droit de faire une petite promenade sur la terrasse à l'air libre. Évidemment, c'est le moment le plus attendu de la journée, celui où elles peuvent enfin respirer, surtout quand il fait beau, n'est-ce pas? En avril 1748, une épidémie de peste éclate à Aigues-Mortes, vu le caractère particulièrement insalubre de l'endroit, si bien qu'effectivement quelques prisonnières vont mourir. Non, c'est pas la peste, ce sont des fièvres, malaria, choses semblables, n'est-ce pas? Plusieurs prisonnières vont donc décéder, et certaines aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, vont abjurer. En 1750, Olivier de Serres, n'est-ce pas, est libéré. Le mari, donc, de Marie, est libéré. C'est l'époque où, malgré tout, dans certains endroits, la persécution redouble, et c'est ainsi que, cette même année, un certain nombre d'enfants protestants sont enlevés de force pour être baptisés dans la religion catholique. Devant cette situation-là, Marie, qui écrit beaucoup, n'est-ce pas ? Elle entretient une très très nombreuse correspondance. Elle entretient une correspondance avec les leaders du protestantisme, en particulier avec Antoine Court. Elle entretient une correspondance avec les protestants réfugiés dans le refuge, en Suisse, ailleurs, n'est-ce pas ? Elle entretient aussi une correspondance avec ses ennemis, et puis pour essayer de les fléchir. Et c'est ainsi qu'elle écrit, cette même année, à Madame de Pompadour, la maîtresse du roi Louis XV, pour tenter aussi de l'attendrir, se disant peut-être qu'une femme aura des sentiments plus humains qu'un roi qui vit dans cette immoralité-là. Mais c'est mal connaître, évidemment, la Pompadour, qui, elle aussi, n'a qu'un but, c'est de vivre dans les plaisirs et dans le luxe, n'est-ce pas, et qui ne reprendra même pas la peine, évidemment, de répondre à la lettre de Marie. C'est alors qu'éclate l'affaire Calas. L'affaire Calas, nous aurons l'occasion d'y revenir, c'est cette affaire qui amène, enfin, plus exactement, les choses commencent ainsi, à Toulouse. Le fils d'un riche marchand d'étoffes qui se nomme Calas s'est converti au catholicisme. Et quelque temps après, il est retrouvé mort. Bon. Une enquête est effectuée et l'on conclut que ce garçon a été assassiné par son propre père qui ne supportait pas le fait qu'il se soit converti au catholicisme. Un procès a lieu contre Calas, le père, n'est-ce pas, qui est reconnu coupable de meurtre et qui est condamné à être roué vif. Bon, il se trouve que Calas était innocent du meurtre de son fils. Et Calas va donc être mis à mort d'une manière tout à fait illégitime et illégale. et après son exécution, la preuve de son innocence va éclater. Et l'un des plus ardents défenseurs de Callas, n'est-ce pas, et qui va militer pour faire réhabiliter Callas, et qui parviendra d'ailleurs, sera le philosophe français Voltaire. Voltaire, à ce niveau-là, qui n'était pas évidemment, qui n'agissait pas dans ce domaine-là par amour particulier pour le protestantisme, qu'il méprisait autant qu'il méprisait le catholicisme. Mais les idées de Voltaire, les idées de tolérance, les idées d'humanisme faisaient qu'il ne supportait pas cette erreur judiciaire. Il ne supportait pas d'ailleurs non plus la persécution des protestants pour les mêmes raisons. Et au travers du cas Callas, n'est-ce pas, Voltaire va voir l'occasion de faire progresser en France l'idée de la tolérance. Et effectivement, il y parviendra. Car après l'affaire Callas, le pouvoir, culpabilisé par cette horrible erreur judiciaire, ne mettra plus le même zèle à persécuter les protestants. Et à partir de l'affaire Callas sera un véritable tournant pour les protestants français. D'abord parce qu'il va avoir des résultats immédiats de leur donner une semi-liberté, et deuxièmement, à long terme, à plus long terme du moins, conduira Louis XVI à donner le fameux édit de tolérance qui permettra aux protestants, quelques années avant la Révolution française, de ne pas jouir de l'égalité des droits. On n'en est pas encore là, il faudra attendre la Révolution. Mais en tout cas, d'être toléré, effectivement, comme le dit ce fameux édit de tolérance. Néanmoins, ça ne veut pas dire que toute forme de persécution cesse, car la même année, trois frères d'ailleurs, les frères Garnier, sont décapités. Néanmoins, comme j'ai dit, l'esprit de tolérance s'introduit en France. Nous avons vu aussi que dans ce même temps arrive en Languedoc un nouvel intendant qui se nomme l'intendant Beauveau. Et en même temps aussi, toujours dans le mouvement de cette effervescence qui a saisi la France à la suite de ces différentes affaires, n'est-ce pas, a lieu ce qu'on appelle l'affaire d'une fausse lettre du dauphin, qui promettrait d'instaurer en France la tolérance chère aux philosophes. Cette lettre, malheureusement, est totalement fausse, n'est-ce pas ? C'est une fraude, c'est une totale perversion. Mais, bien entendu, l'affaire Callas, d'une part, l'arrivée de Beauveau, d'autre part, et la fameuse fausse lettre du dauphin arrivent aux oreilles des prisonniers de la Tour de Constante et leur donnent un immense espoir. On pense que là, maintenant, en tout cas, les prisonnières arrivent à la fin de leur calvaire. Hélas, il n'en est rien. Et l'année suivante, un autre prédicateur, Jacques Roger, est exécuté pour preuve, s'il en était, qu'on est encore loin de cette tolérance après laquelle, finalement, beaucoup dans le royaume, de plus en plus, commencent à aspirer. En tout cas, cette affaire Callas et ce qui s'ensuit donnent davantage d'audace aux protestants, et les assemblées du désert deviennent de plus en plus nombreuses à partir de cette date. Et même des catholiques s'enhardissent jusqu'à assister aux réunions du désert. Bon, de temps en temps, il y a des rafles. De temps en temps, la police fonce sur une réunion clandestine, arrête un certain nombre de gens. Par exemple, jusqu'en 1745, un prophète, encore des prophètes à cette période-là, vous voyez, un prophète est arrêté dans une réunion du désert, puis libéré. Il sera libéré aussi en même temps que les derniers prisonniers de la Tour de Constance en 1768. Le 28 octobre 1748 est signé entre les belligérants, n'est-ce pas, qui se font la guerre encore à cette période-là, ce qu'on appelle la paix d'Aix-la-Chapelle. Cette paix qui était imminente, Marie aussi avait beaucoup compté sur elle, n'est-ce pas, nous l'avons vu, pour que les princes protestants fassent pression sur Louis XV pour assouplir, n'est-ce pas, le sort des prisonniers de conscience et notamment justement des prisonnières de la Tour de Constance. Et dans le moment où cette paix est signée, Marie envoie une liste des prisonnières à Paul Rabaut pour que cette liste des prisonnières soit communiquée aux plénipotentiaires qui sont en train de discuter à Aix-la-Chapelle. La lettre parviendra bien à ces derniers, mais les protestants sont oubliés une fois de plus, comme chaque fois, finalement c'est à peu près radical, chaque fois, n'est-ce pas, qu'il y a des traités de paix, les puissances protestantes oublient les protestants français. Ça, c'est une règle, on a vu ça sous le règne de Louis XIV, on a vu ça avant, n'est-ce pas. La réelle politique, c'est toujours pareil, la réelle politique font que les protestants comptent pour quantité négligeable dans la balance des intérêts des grandes puissances. En fin de compte, bien que à chaque fois ils tombent dans le piège, ils espèrent que les choses vont changer à ce niveau-là. En 1740, le fils de Pierre meurt. Il est tout jeune, n'est-ce pas ? Et le 8 septembre 1747, c'est le tour, n'est-ce pas, c'était le tour de sa fille, nous l'avons vu. D'Étienne Durand, qui est âgé de 92 ans à cette période-là, n'est-ce pas. Deux ans plus tard, ont encore lieu des condamnations de prédicateurs, n'est-ce pas, qui sont arrêtés en tenant des réunions illégales. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'après l'affaire Calas, la politique du gouvernement français par rapport aux protestants est tout à fait incertaine, louvoyante, peu claire, n'est-ce pas, dépendant des humeurs du moment, soit de Versailles, soit des fonctionnaires locaux, n'est-ce pas, qui jouissent d'une certaine latitude. Les protestants sont encore de toute façon traqués. Ils sont accusés de libertinage. Pourquoi ? Parce que justement, ne pouvant être mariés officiellement dans l'état civil qui est entre les mains des catholiques, ils sont considérés officiellement comme des concubins. Donc on les accuse d'immoralité, de cohabitation, d'adultère, de tout ce qu'on voudra, alors que dans la réalité des faits, ils sont au contraire des couples très, très stables, très unis, mais aux yeux du pouvoir, ils sont considérés comme tels. Il y a un autre point aussi qui est un autre chef d'accusation qui est levé contre eux à cette période-là. C'est l'époque, nous l'avons vu, nous aurons l'occasion d'y revenir, des progrès de ce qu'on appelle les philosophies des Lumières, basées sur deux grands points, le déisme, c'est-à-dire le rejet de la révélation, le rejet de la révélation biblique en particulier, mais non pas de la foi en Dieu. Les philosophes des Lumières croient en un Dieu impersonnel, le Deus ex machina, celui qui a mis les choses en mouvement, mais ils rejettent toute idée que ce Dieu aurait pu se révéler. Et puis, il y a une deuxième catégorie de philosophes, menés par Diderot en particulier, n'est-ce pas, qui sont carrément athées, la libre pensée. Et il est vrai, il faut reconnaître un petit peu ce qui est, un certain nombre de protestants sont séduits par cette philosophie des Lumières. Le protestantisme, à la fin du XVIIe siècle, sera, disons le mot, pas mal infiltré par la philosophie des Lumières. Et très vite, les protestants français vont être accusés d'être des libres penseurs, voire même des athées. Ce que certains n'étaient pas loin d'être, dans les faits, il faut bien encore une fois l'admettre. En 1752, a lieu un autre drame, n'est-ce pas ? Un pasteur, le pasteur Molinas, est arrêté, condamné à mort, et il abjure. Il abjure, il passe au catholicisme en échange de sa vie. Et cela, bien entendu, provoque un traumatisme au sein de la communauté protestante. En 1754, Isabeau meurt, n'est-ce pas ? Laissant Marie seule à la tour de Constance. Finalement, la seule famille que conserve encore Marie, c'est sa nièce, la fille de Pierre, Anne Durand. Elle se considère un petit peu comme la mère adoptive d'Anne, dans la mesure où Anne aussi se trouve dans la même situation, puisqu'elle a perdu ses parents et son grand-père, elle est seule au monde. Marie se considère un petit peu comme la tutrice, la mère adoptive d'Anne. Elle entretient avec elle une correspondance très suivie, l'exhortant à mettre sa confiance en Dieu, bien entendu, lui donnant des conseils spirituels très importants, mais également aussi lui donnant des conseils très terre-à-terre pour sa vie tous les jours, et s'efforçant d'ailleurs aussi de lui envoyer le peu d'argent qu'elle pouvait réussir à obtenir de droite et de gauche pour l'aider à survivre, pensant que finalement Anne en avait davantage besoin qu'elle. Malheureusement, il faut dire que Anne ne sera pas à la hauteur de l'affection que Marie lui prodigue, et Marie aura beaucoup de déceptions avec Anne, comme nous aurons l'occasion de le voir. Anne finira par épouser un catholique d'ailleurs, n'est-ce pas, et finalement aura une foi très très chancelante et très très peu affirmée. 1759, c'est la date où l'on craint un soulèvement des protestants du Languedoc aux côtés des Anglais avec lesquels la France est en guerre à cette époque-là. On craint un coup de main anglais contre Aigues-Mortes et la situation des prisonnières de la tour de Constance devient de plus en plus difficile. La promenade quotidienne est supprimée, la surveillance est de plus en plus draconienne, on fouille les colis, on surveille la correspondance, etc. etc. C'est un moment extrêmement difficile dans ce moment-là. Cette même année, Anne Durand devient gouvernante dans une famille nîmoise ce qui lui permet de subsister. Et elle reçoit en 1759 l'autorisation de venir passer un mois à la tour de Constance pour y être en compagnie donc de Marie. Et ça, c'est une grande joie pour Marie, c'est une grande joie pour toutes les prisonnières. Vous me direz que la tour de Constance, c'est un endroit assez singulier pour venir passer des vacances. Dans les circonstances dans lesquelles se trouvaient ces femmes, c'était quelque chose qu'elles attendaient, bien entendu, avec une grande joie. En 1760, commence la guerre de 7 ans. C'est un nouvel épisode politique duquel les prisonnières de la tour de Constance attendent aussi beaucoup. Comme toujours les protestants, n'est-ce pas, pendant les persécutions, Marie et les femmes qui sont enfermées avec elle à la tour de Constance pensent que, en fin de compte, le roi a de mauvais conseillers. Ça a toujours été l'illusion des protestants, comme ça a été leur illusion, n'est-ce pas, de croire que les puissances protestantes allaient faire pression dans des accords de paix pour en leur faveur, n'est-ce pas. On a cru aussi que le roi était mal conseillé. Si on pouvait toucher directement le roi, alors certainement le roi serait lui-même indigné des souffrances de ses sujets, il interviendrait, mais il y a des gens qui font écran entre les persécutés et le roi. En fin de compte, n'est-ce pas, au bout de cette période-là, va avoir lieu les premiers processus de libération. 1761, donc le lendemain de la guerre, les premières prisonnières sont libérées de la tour de Constance. Toutefois, les choses ne sont pas toujours aussi évidentes, car cette même année, le pasteur Rochette est condamné à mort. Ce sera le dernier pasteur exécuté pendant toute cette période-là. En 1762, le pasteur Paul Rabaut, enfin, qui a été sollicité si longtemps par Marie, fait appel en faveur des prisonnières au pouvoir directement, au pouvoir de Versailles. Il a pour cela l'appui, il s'est acquis pour ça l'appui du duc de Belfort, qui plaide directement la cause des prisonnières de la tour de Constance à Versailles. Cette demande reçoit un accueil mitigé, et les libérations vont commencer à cette période-là, mais au compte-gouttes. C'est l'année où Anne Durand, donc la nièce de Marie, épouse un certain Jacob Cazeneuve, qui est de 20 ans son aîné, qui est catholique. Ils auront une fille l'année suivante. Mais comme nous l'avons vu, quand Marie sera libérée, Anne ne manifestera à son endroit aucune reconnaissance pour ce qu'elle a fait pour elle. Elle manifestera que froideur. Finalement, Anne est une fille assez légère, qui a une vie spirituelle, je disais tout à l'heure, très 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 limité. Et donc il faudra attendre 1768 pour que Marie soit libérée à l'âge de 61 ans. Elle est entrée à Tours de Constance, elle avait 15 ans, elle en sort à 61 ans. C'est quand même quelque chose de peu banal. Donc, libérée en 1668, elle se retire au Boucher, dans la maison familiale, avec une amie. Et là, elle va s'efforcer de vivre pour servir Dieu, de toutes les manières possibles, n'est-ce pas ? Et notamment, elle va accueillir dans sa maison un galérien de 75 ans, un des plus anciens galériens libérés aussi à peu près au même moment qu'elle. Bon, quand elle sort de prison, forcément, elle est démunie de tout. Et heureusement, l'Église réformée du secteur va s'occuper d'elle, va lui envoyer des subsides pour lui permettre de survivre. Trois ans après sa libération, Cazeneuve meurt, donc le mari d'Anne, et Anne reste seule, après avoir d'ailleurs perdu deux enfants qu'elle a eus de lui. Et elle rejoint Marie, donc au Boucher, pour mourir en 1676. N'est-ce pas ? Elle a 61 ans quand elle meurt, Marie, finalement. Non, elle est sortie, elle avait 51 ans, pardon, et elle meurt donc 10 ans plus tard, à l'âge de 61 ans. En fin de compte, le bilan de sa vie est très positif, contrairement à ce que cela pourrait paraître. Parce que sa résistance acharnée, implacable, pourrait-on dire, a, au moins autant que l'affaire Calas, contribué à ébranler la détermination du régime. Très vite après sa mort, Marie devient une figure légendaire, qu'elle est restée jusqu'à nos jours dans le protestantisme français, n'est-ce pas ? Et son martyr injuste, n'est-ce pas, est monté en épingle par les protestants eux-mêmes, et puis aussi par des gens qui, comme Voltaire, vont avoir à cœur de secourir les protestants, encore une fois, non pas pour des raisons spirituelles, mais pour des raisons humanitaires, n'est-ce pas ? Et de plus en plus, n'est-ce pas, le pouvoir va être gêné aux entournures dans sa répression. Marie disait ceci, n'est-ce pas ? Il faut que l'État périsse, ou que soit établie la liberté de conscience. Une femme qui avait une volonté de faire, n'est-ce pas, et qui se rendait compte qu'elle défiait l'État dans son ensemble. C'était le sens de son résister, ce qu'elle avait greffé, n'est-ce pas. Elle savait que, en quelque sorte, elle tenait presque le sort du protestantisme entre ses mains, et elle n'avait pas tort, n'est-ce pas. Et donc, c'est en quelques années plus tard, à la fin du siècle, un peu plus de 10 ans, 1787, qu'aura lieu le fameux édit de tolérance mettre fin à cette terrible persécution. Mais en même temps aussi, on peut dire que d'une certaine manière, la résistance des protestants français a miné le régime de l'intérieur et préparé aussi, jusqu'à un certain point, la Révolution française. C'est pas l'élément déterminant dans la Révolution française. Et les idées des Lumières vont avoir beaucoup plus d'influence, n'est-ce pas, pour l'avènement du nouveau régime. Mais néanmoins, la résistance des protestants sera aussi un élément de ce basculement, n'est-ce pas, de l'État français. En fin de compte, c'est en France que les persécutions sanglantes se sont prolongées le plus longtemps. Et sous Louis XV, donc Louis XV meurt en 1774, même si les persécutions sont moins violentes que sous Louis XIV, eh bien, elles n'en seront pas moins extrêmement cruelles. Et à partir de 1730, n'est-ce pas, il va y avoir, nous l'avons vu la dernière fois, une recrudescence des persécutions. En particulier, il va y avoir encore une dernière fournée de galériens protestants qui va être condamnée à cette période-là. Et par exemple, sur les 450 pasteurs qui ont été formés au séminaire de Lausanne par Antoine Court, sur 450, 90 vont être exécutés pendant cette période-là, et 27 vont être envoyés aux galères. Alors, les choses n'ont pas été aussi simples et aussi faciles que ça pendant ce siècle, qui a été un siècle, en principe, où les choses auraient dû rentrer dans l'ordre. Et en fin de compte, là, nous avons une lutte qui va être une lutte titanesque pour le petit protestantisme français. En 1760, Antoine Court meurt. deux ans avant l'exécution du dernier pasteur protestant, le pasteur Rochette, qui est pendu à Toulouse, donc nous l'avons vu deux ans plus tard. Bon, l'affaire Calas, j'en ai parlé. L'affaire Calas va provoquer une semi-liberté des protestants. Et à partir de l'affaire Calas, les protestants vont s'organiser, non pas en église, ce qui reste strictement interdit, mais ils créent des sociétés. C'est un biais juridique, si vous voulez, par lesquels ils vont reconstituer les églises réformées. Ils ont, le plus légalement qui soit, un budget régulier, un lieu de réunion, qui ne s'appelle pas un temple, c'est une maison privée, n'est-ce pas ? Et ce qu'ils appellent un lecteur, le dimanche. Les lieux de culte, ils appellent ça des maisons d'oraison, des maisons de prière, si vous voulez. Il y en a, elles sont surtout concentrées dans l'ouest et dans le sud du pays. Il y a des bancs, il y a des chaires dans ces maisons d'oraison. Ce sont des véritables temples qui n'ont ni l'allure, ni le nom, mais qui en ont la fonction en tout cas. En 1768, les protestants poussent l'audace jusqu'à éditer un recueil de psaumes à La Rochelle. Et à nouveau, donc, ils ont un livre de psaumes pour chanter quand on sait que les psaumes étaient absolument interdits. Et en 1774, chaque dimanche, plus d'un millier de protestants, plusieurs milliers de protestants se rassemblent pour célébrer le culte sans aucun problème. Plusieurs milliers de personnes, forcément, ça ne passe pas inaperçu dans une ville. Automatiquement, ça montre que là, le pouvoir ferme les yeux sur les entorses aux propres lois qu'il a édictées. Mais le problème du protestantisme français de cette période-là, c'est qu'il n'est pas uni. Et ça, c'est quelque chose qui va l'handicaper considérablement. Donc, Antoine Court meurt, nous l'avons vu en 1760, c'est son fils Court de Gébelin qui lui succède et qui devient en quelque sorte le chef du protestantisme français jusqu'en 1784, c'est-à-dire quelques années avant l'édit de tolérance, époque où il meurt. Et donc, petit à petit, on va s'acheminer vers ce fameux édit de tolérance qui va permettre aux protestants de trouver un statut légal quelques années avant la Révolution française. Qu'en est-il dans l'Ouest pendant cette période-là ? En 1763, au début de cette période, il y a dans l'Ouest 60 pasteurs. En 1789, c'est-à-dire au moment où éclate la Révolution française, dans l'Ouest, ils seront 80. Donc, pendant toute cette période, il y a une augmentation constante du nombre des pasteurs. Souvent, les pasteurs sont des gens itinérants. C'est très intéressant, n'est-ce pas ? Dans la persécution, on a retrouvé un peu la structure de l'Église primitive. Il y a deux types de ministres à cette période-là, les pasteurs et puis les prédicants. Les prédicants, ce sont en quelque sorte des anciens qui, eux, restent sur place, qui encadrent les églises, qui ont souvent ce titre dont nous parlions tout à l'heure de lecteurs, n'est-ce pas ? Qui donc prêchent chaque dimanche, suivent le troupeau, etc., font tout le travail pastoral, sauf les actes pastoraux, baptême, mariage, inhumation. À cette époque-là, l'inhumation pour les protestants n'est pas une cérémonie d'église, n'est-ce pas ? C'est quelque chose qui se fait en privé. Donc, il n'y a ni pasteur ni prédicant, en principe, aux cérémonies d'inhumation. Par contre, baptême et mariage, oui, ce sont les pasteurs, n'est-ce pas, qui font cela. Et justement, quand un pasteur arrive, c'est l'occasion pour baptiser les enfants, c'est l'occasion pour marier des couples, et c'est l'occasion, évidemment, pour le pasteur d'apporter peut-être un certain plus que ne le font les prédicants en temps normal. La première région qui renaît, en quelque sorte, c'est le Languedoc, bien sûr. Ça, nous l'avons vu la dernière fois. Et puis la seconde, c'est le Poitou, donc c'est l'Ouest. Le Poitou va être la région d'où va rayonner le protestantisme dans l'Ouest en particulier. C'est en 1740 qu'arrive le premier pasteur officiel sorti du séminaire de Lausanne, qui se nomme Michel Viala. Et puis un second le rejoint quelque temps après, il se nomme Jean-Baptiste Migaud, qui va être l'apôtre de la Normandie en particulier. Et il finira d'ailleurs en 1749 par se réfugier à Jersey après avoir été traqué par le pouvoir. Et c'est un certain pasteur Pierre Boulet qui lui succède. Pierre Boulet, quand il arrive en Normandie, est fortement déçu par ses paroissiens parce qu'il constate vite que la principale religion des Normands, qu'ils soient catholiques ou protestants d'ailleurs, n'est-ce pas, leur principale religion, c'est la religion de l'argent. Alors, il en souffre considérablement, mais malgré le fait que, effectivement, les Normands ne sont pas très très fervents, en tout cas, ils protègent leur pasteur. Et Boulet est traqué comme l'avait été son prédécesseur Migaud, mais il est protégé par des gens qui n'ont pas d'ailleurs des soucis spirituels extrêmement importants. Mais Boulet se donne tellement à cette tâche qu'au bout d'un certain temps, le niveau spirituel des églises de Normandie va augmenter. Et il va y avoir vraiment quelque chose qui va passer sur le plan de l'Évangile en Basse-Normandie, par exemple, où un certain Pierre Lévrier, venu du Poitou d'ailleurs, va rejoindre Boulet. Parfois, d'ailleurs, il y a aussi des persécutions qui ne vont pas très loin. En général, à cette période-là, en Normandie, ils sont emprisonnés pour quelques jours, relâchés. En général, ça s'arrête là. Par contre, en Poitou, parfois, il y a des drames. C'est ainsi qu'en 1738, le pasteur Jean-François Jallet est arrêté à Poitiers, condamné à la pendaison. Bon, ça dépend un petit peu des fonctionnaires locaux. Ça dépend un petit peu si on a affaire à un intendant qui est mauvais coucheur ou non. De 1740 à 1750, il y a un durcissement, inexplicablement, c'est comme ça. Et les assemblées sont à nouveau interdites. À nouveau, on enlève les enfants. Et puis, en 1750, à nouveau, libéralisation. Pourquoi ? Parce que là, on a vu qu'on était en train de pousser le bouchon un petit peu loin et on craint des nouvelles dragonnades. Voyez-vous, le pouvoir continue à vivre dans cette terreur, des soulèvements protestants. Le pouvoir continue à vivre dans cette terreur de la révolte camisarde. Et c'est pour ça que la révolte camisarde a été très importante, finalement. En 1760, donc, on trouve en Poitou, par exemple, des cultes de plus en plus fréquents, souvent d'ailleurs en plein air. On n'a pas encore de culte à ce moment, de temple à ce moment-là. C'est en 1762 qu'est construit à Villefagnan le premier temple. C'est illégal, en tout cas. Peut-être pas clandestin, mais illégal en tout cas. Et en 1764, un deuxième temple est construit dans les mêmes conditions à Saint-Mexan. Ça ne dure pas longtemps, on les fait démolir, le pouvoir les fait démolir, mais enfin, ça montre que les protestants s'enhardissent drôlement, n'est-ce pas, en créant ainsi des temples de cette manière-là. Alors, là, on est maintenant un siècle après la révocation, et on constate que, bien sûr, c'est vrai, les protestants ont considérablement diminué en France, mais ils sont bien présents, et leur influence continue à être indéniable. Je vais vous lire un petit poème qui montre un petit peu l'état d'esprit des protestants, n'est-ce pas ? Un petit poème que le pouvoir, dans lequel le pouvoir était brocardé, n'est-ce pas ? Montrant qu'il y avait une espèce de maranisme aussi parfois chez les protestants à cette période-là. Bon, officiellement, ils étaient parfois de bons catholiques, mais en fin de compte, n'est-ce pas ? Leur catholicisme leur permettait de mieux poignarder, en quelque sorte, le pouvoir. Par exemple, il y a ici 20 vers qui ont été écrits par un anonyme quelconque, mais qui circulaient, n'est-ce pas, dans la France protestante de cette période-là. Alors, ces 20 vers sont disposés sur deux colonnes de 10 vers chacun. Alors, on peut les lire soit à la suite, c'est-à-dire le premier, deuxième, troisième, quatrième, ou bien au contraire, comme vous voyez là, par exemple, on peut les lire comme ça, ou on peut les lire comme ça. Alors, je vais vous les lire des deux manières, vous allez voir que ça change tout. Première manière, donc, en les lisant à la suite. J'abjure de bon cœur, Luther, ce grand docteur. Oui, j'abandonne en forme Luther et sa réforme. Je combattrai toujours Luther et ses discours. Il faut que j'extermine Luther et sa doctrine. Dieu destine à l'enfer les enfants de Luther. Le pape et son empire est l'objet qui m'attire. Et la messe et sa loi ont tout pouvoir sur moi. Les feux du purgatoire me préparent à la gloire, et le pape et sa cour est mon plus grand amour. Rome et ceux qui la suivent au ciel toujours arrivent. Donc, orthodoxie catholique totale, bien sûr. Voilà. Maintenant, si on la lit de l'autre manière, en sautant un vers à chaque fois, en lisant sur les deux colonnes, voilà ce que ça nous donne. J'abjure de bon cœur le pape et son empire. Luther, ce grand docteur, est l'objet qui m'attire. Oui, j'abandonne en forme et la messe et sa loi. Luther et sa réforme ont tout pouvoir sur moi. Je combattrai toujours les feux du purgatoire. Luther et ses discours me préparent à la gloire. Il faut que j'extermine et le pape et sa cour. Luther et sa doctrine est mon plus grand amour. Dieu destine à l'enfer Rome et ceux qui le suivent. Les enfants de Luther au ciel toujours arrivent. Vous voyez, c'était les petits jeux auxquels on s'amusait à cette période-là, quoi. Hein. Bon, ça montre un certain état d'esprit qu'il pouvait y avoir à cette période-là au sein du protestantisme français. Alors, bon, malgré tout, dans des choses comme ça, petit à petit, eh bien, on s'acheminait vers la tolérance, vers l'édit de tolérance. Alors, si vous voulez, nous allons voir maintenant un des apôtres de la tolérance, comment Dieu conduit des choses d'une manière tout à fait intéressante, n'est-ce pas ? Il y avait vraiment une direction de Dieu. Les protestants de cette période-là, certains d'entre eux du moins, vivaient vraiment à la présence de Dieu. Et nous allons voir un épisode justement d'un homme dont Dieu s'est servi pour promouvoir l'esprit de tolérance. Il s'agit du pasteur Jean Jarousseau. Jean Jarousseau qui était pasteur à Saint-Georges-de-Didonne, dans les Charentes-Maritimes, et qui sera utilisé par Dieu justement pour toucher des ministres de Louis XVI pour promouvoir justement l'édit de tolérance. Jean Jarousseau était originaire de Saintes, en Charente-Maritime. Il était né dans une famille protestante. Il était né en 1730, en Angoumois, dans la frontière, justement, entre ces deux départements. Et il était lui-même d'une famille de pasteurs. En particulier, n'est-ce pas, il reçoit sa vocation, alors que le pasteur Gibet, se trouve dans sa famille hébergé, caché, n'est-ce pas, en 1752, au moment où l'ordre est donné par Paris d'arrêter ce pasteur. Ce pasteur qui sera condamné à mort par Coutumas. Le jeune Jarousseau, en 1754, assiste clandestinement à la fameuse assemblée du désert de Combes-la-Bataille, où la maréchaussée va intervenir. C'est un épisode bien connu, n'est-ce pas, de cette période-là, on en a déjà parlé la dernière fois. Et là, il y aura de nombreux morts, n'est-ce pas, la maréchaussée tire dans la foule qui est rassemblée pour cette réunion clandestine. Jarousseau y était tout jeune, et il parvient à s'enfuir. Bon, ça provoque chez lui une très très profonde impression, n'est-ce pas, et à la suite de cette fameuse assemblée de Combes-la-Bataille, il décide, bien loin d'être effrayé par ce qu'il vient de vivre, de consacrer sa vie au service de Dieu. Il se rend donc à Lausanne, au séminaire d'Antoine Cour, où pendant 3 ans, il va étudier. Il va étudier donc les choses de Dieu. C'est un ami de Paul Rabot, et après ces 3 ans d'études, il revient en Cévennes, où il va seconder Paul Rabot dans son ministère. Paul Rabot a une grande estime pour lui, et le 2 juin 1761, il est nommé prédicant par le synoge de Saint-Onge, après avoir été renvoyé des Cévennes par Paul Rabot dans cette région-là. Il reçoit la responsabilité de l'église de Cozes, celle de Royan, de Saint-Georges, de Méché, de Mortagne, de Saint-Fort, de Génozac et de Pont, c'est-à-dire un secteur énorme, quoi. Quand on sait qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de voiture pour le desservir, ça montre que là, c'était des hommes qui avaient une tâche véritablement surhumaine que d'assumer tout cela. Bon, en 1763, la Saint-Onge, sur le plan de la religion, est assez calme, et les protestants de Saint-Onge jouissent d'une relative liberté, d'une relative tranquillité en tout cas. Cela est dû, comme nous l'avons vu souvent, au fait qu'il y a un intendant qui est sinon favorables, du moins indifférents, en tout cas qui ne cherchent pas la guerre. C'est le cas, par exemple, de l'intendant de la région dans laquelle Jarousseau va arriver, qui se nomme le marquis de Santerre, qui est un homme bienveillant. Il habite Didonne, c'est un vieillard, à cette époque-là déjà, il est sourd, en tout cas très diminué au point de vue capacité d'oreille. Et la première chose qu'il fait lorsqu'il apprend qu'un pasteur est arrivé non loin de l'endroit où il réside, Jarousseau décide d'établir son centre, le centre de son ministère dans la petite ville, le petit village de Saint-Georges de Didonne. Saint-Georges, qu'on appelle à ce moment-là, c'est pas encore Didonne, c'est à côté de Didonne, donc à côté de la résidence du marquis qui a son château là-bas. Donc le marquis, bien entendu, tout se sait dans une petite ville comme celle-là. Le marquis apprend qu'un pasteur est arrivé, il le fait venir, il le fait venir. Il fait venir, Jarousseau, bon, il va pas trop tranquille, il demande est-ce que ça va se passer. Alors, le marquis lui dit, bon, bien, vous arrivez, très bien, moi je veux pas d'ennui, j'ai rien contre vous, j'ai rien contre votre ministère, alors soyez discret. C'est bien évident que si vous faites trop de tapage, je serai obligé de sévir, parce que si autrement c'est moi qui aurais des ennuis avec mes supérieurs. Donc tenez-vous tranquille, faites votre travail le plus discrètement possible, et moi je vous embêterai pas. Bon, il se peut, hein, que je reçoive de Paris des ordres de vous arrêter. À ce moment-là, j'enverrai une escouade de gendarmes pour vous arrêter, mais je leur ferai sonner du tambour pendant toute la route. À vous d'en tirer des conclusions, à vous de filer, à vous de vous cacher, à vous de trouver des moyens. Je ne vous arrête pas, comme ça, quand la maréchaussée arrivera, on pourra dire il n'était pas là, on n'a pas pu l'arrêter. Donc, voyez-vous, voilà un exemple. Ça peut se passer comme ça. Maintenant, ça peut se passer autrement aussi. Il aurait suffi que ce soit un mauvais coucheur, et puis ça aurait été exactement l'inverse qui se serait produit. Bon. Donc, Jarousseau établit des maisons d'oraison. Saint-Georges, il faut le dire, c'est une petite bourgade sur la côte de Saint-Ange qui a été essentiellement fondée par des protestants. C'est une espèce de village, de refuge. Pourquoi cet endroit-là ? Parce que c'était tranquille, parce que c'était retiré d'un peu tout et parce que ça permettait des évasions faciles en direction de l'Amérique en particulier. Donc, si vous voulez, beaucoup de protestants se réfugiaient là en se disant que si jamais il y avait le moins de problèmes, on pouvait toujours prendre un bateau et puis partir. On pouvait même traverser la Gironde, aller de l'autre côté, en direction de Bordeaux, etc. Bon, c'était dû à cela. Donc, c'était vraiment un village où ne résidaient en principe que des protestants. Alors, si vous voulez, pendant un certain nombre d'années, Jarousseau va exercer son ministère dans des conditions relativement tranquilles, n'est-ce pas, et va être mêlé, au bout d'un certain temps, à des événements qui vont le dépasser et qui vont l'amener jusqu'à Versailles, où il va plaider la cause des protestants auprès du ministre de Louis XVI et devant Louis XVI lui-même, n'est-ce pas. Et l'intervention de Jarousseau va être déterminante pour l'édit de tolérance de Louis XVI en 1787, mais ça c'est une histoire, si vous voulez, qu'on verra la prochaine fois.